Et alors, bienvenue à tous pour la troisième rencontre au coin du livre, et consacrée aujourd'hui à l'édition française et l'édition protestante. Alors, nous sommes heureux d'accueillir Max Chalel, fondateur des presses du Languedoc et des éditions de Paris. Donc, il dirige actuellement les éditions de Paris et connaît particulièrement donc l'édition régionale, mais aussi le monde de l'édition en règle générale, puisque le siège social des éditions de Paris, comme l'indique son nom, est à Paris. Donc il a l'occasion de rencontrer des personnes de l'édition sur Paris. Et il nous parlera dans un premier temps des traits généraux, brièvement évidemment, hein, puisque le but de ces rencontres au coin du livre, je l'ai déjà dit, ce n'est pas de faire des conférences, mais plutôt d'avoir un moment, disons, détendu, où on puisse... après le court exposé de l'orateur, discuter ensemble, poser des questions, avoir des échanges. Donc il nous présentera courtement les grandes tendances de l'édition française, puis de l'édition protestante, quelles ont été les grandes tendances d'édition protestante, les maisons d'édition protestante, qu'en reste-t-il aujourd'hui en France? On verra qu'il en reste très peu de choses en fait. Quel est son poids par rapport à l'ensemble de l'édition française? Quelles sont aussi ses évolutions, ses possibilités, sa visibilité? Donc voilà quelques questions que Max Chalel abordera. Et puis il nous présentera aussi son parcours personnel, comment il est venu à l'édition, la création des presses du Languedoc, des éditions de Paris. Donc je ne sais pas comment tu vas réussir à faire tout ça.
Beaucoup de choses,
dans le temps imparti. Voilà, ce sont les grandes lignes. Je vous rappelle, pour ceux qui le veulent, qu'il y a des programmes de ces rencontres au coin du livre disponibles à la librairie. Et puis, nous terminerons cette rencontre, évidemment, après le moment de questions, par une petite collation dans la librairie. Voilà, je te laisse la parole.
Merci. Bon, ben, c'est un vaste programme, effectivement. Alors, très rapidement, un petit peu le parcours, si vous voulez, qui m'a amené à l'édition. Bon, le livre m'a toujours intéressé. Je précise au passage que ma mère est originaire d'Alès. Donc, c'est un pays, évidemment, qui m'est cher. C'était des Pongis d'Alès depuis plusieurs générations, protestants, naturellement. Et le livre m'a toujours intéressé, et depuis toujours. Et le hasard a fait... que je suis entré en édition, comme on dit, un peu entré dans les ordres, dans les années 70. Remarque, ça ne rajeunit pas, évidemment, je n'aurais pas annoncé mon âge comme ça, mais en fait, ça ne fait rien. Donc, j'ai créé au départ, je dois dire, avec quelques amis, sans trop connaître l'édition, les éditions du Cercle, dans les années 70, et puis, qui était une petite structure avec peu de moyens. Et ensuite, j'ai un peu glissé dans d'autres structures et j'ai travaillé chez un éditeur diffuseur, Bernard Laville. Puis je suis entré chez Stock, où je me suis occupé de plusieurs collections, chez Belfond également, 10-18, Galilée. Donc un parcours éditorial au plan national, où je dirais que j'ai appris un peu mon métier sur le tas, car l'édition, c'est un milieu complexe. Et souvent, les gens pensent que parce qu'on aime les livres, parce qu'on aime la littérature, parce qu'on écrit, on est compétent dans l'édition. L'édition, c'est à la fois du feeling, si vous voulez, au niveau du choix des bouquins. C'est un savoir-faire pour souvent remettre en forme les livres, les manuscrits, les réécrire ou les peigner, comme on dit. Mais c'est aussi une technique, savoir... faire une mise en page, une maquette. Bon, bien sûr, on ne fait pas ça tout seul, naturellement. faire donc ce travail concret de réalisation d'un livre à partir d'une idée, d'arriver à un livre que l'on peut toucher. En cela, c'est un métier très artisanal, au sens noble du terme. On verra un peu les correctifs qu'il faut apporter ensuite aujourd'hui. Métier artisanal en ce sens qu'on on fabrique de ses mains, en quelque sorte... on concrétise une idée, on donne forme à une idée, et ça c'est assez passionnant, car d'une part on voit naître quelque chose sous ses mains, et sous sa pensée naturellement, et en même temps il n'y a pas un livre qui ressemble à un autre, il n'y a pas un auteur qui ressemble à un autre, On a donc une panoplie un peu de la société à travers les auteurs. On a des auteurs charmants, des auteurs enquiquinants, on a des auteurs où on n'a pas une ligne à retoucher, des auteurs où il faut tout retravailler, etc. Et puis des sujets qui sont très variés. Donc après ce parcours où j'ai appris le métier, effectivement, de fabrication, à cela s'ajoute, tant qu'on est dans des structures où l'on n'est pas impliqué financièrement, où l'on n'est que, disons, salarié, eh bien, on se préoccupe essentiellement du choix des livres, d'une cohérence éditoriale qui correspond à des collections, à des lignes éditoriales. On ne s'occupe pas naturellement de la maquette, de la mise en page, ni ensuite de l'équilibre financier, bien qu'on soit attentivement surveillé. Si on n'amène que des livres qui ne marchent pas, on est vite remercié. Donc il y a toujours ce souci d'être enthousiaste sur des projets, parce qu'il faut qu'un livre vous passionne pour que vous le fassiez bien. Mais en même temps, il faut se méfier de son enthousiasme pour ne pas s'embarquer sur des bouquins qui ne vous plaisent qu'à vous et qui ne plairont pas à des lecteurs potentiels. Donc toujours cet équilibre entre l'enthousiasme et la prudence, l'étude un petit peu, je dirais pas une étude de marché, on ne peut pas faire ça, mais sentir s'il y a un public, s'il y a des modes. Il y a des choses qui correspondent aussi à des anniversaires, à des événements. Il est évident qu'on le voit très bien quand Révocation Lyonnante flopait de livres, le 500e anniversaire de Calvin flopait de livres aussi. Et ça, pour deux raisons, parce que le public se motive à ce moment-là sur une thématique, mais également le média va être amené à parler de l'événement et donc pourront parler de vos livres. Donc il y a toute cette collusion qui fait qu'on profite de ces opportunités, mais à côté de cela, évidemment, il y a des tas de livres qui sortent hors anniversaire, hors commémoration. Donc on ne se préoccupe pas des questions directement financières, on n'est pas responsable financièrement, on est responsable, je dirais, commercialement, il faut que ça marche. On ne se préoccupe pas non plus de tout ce qui est le travail de promotion au niveau de la presse, des médias, pour faire parler du livre. On ne s'occupe pas des rapports avec la librairie, c'est-à-dire la diffusion, distribution, mise en place des livres, etc. Donc tout cet aspect qui, au contraire, va apparaître quand on crée une structure éditoriale dont on est responsable. Il est évident qu'à ce moment-là, au choix éditorial, au travail de réalisation, vont s'ajouter les travaux de maquette, de mise en page, de commercialisation, de promotion, etc. Donc quand on est un éditeur indépendant, eh bien, on a tout ça à prendre en charge, ce qui est considérable. Parce qu'il faut être gestionnaire, il faut être, je dirais d'une certaine façon, un peu artiste pour savoir si un bouquin est réussi ou pas. Il faut être intellectuellement un peu au courant de la question dont le livre va traiter pour être à même de voir si l'auteur raconte des choses qui tiennent debout. Vous savez, quelquefois dans l'histoire, on s'aperçoit ça m'est arrivé d'avoir des bouquins, des manuscrits qui vous arrivent, et on se dit, mais ça me dit quelque chose. Et on s'aperçoit que quelquefois l'auteur, sans vous le dire, s'était inspiré très très fortement de livres déjà existants, au point qu'il y a, c'est une parfois copié à 50-60%. Donc il faut avoir assez de culture dans les domaines où l'on opère pour être à même de dire à l'auteur, attendez, de voir si l'auteur ne dit pas aussi des choses qui ne tiennent pas la rampe. Donc c'est pour ça aussi que l'on doit se lancer sur des terrains qui ne sont pas tous les terrains. On ne peut pas être compétent dans tous les domaines, et on peut avoir certains domaines de prédilection ou que l'on connaît bien parce qu'on est passionné par l'histoire, par la littérature, par la science-fiction, que sais-je encore. Mais il faut avoir des secteurs où l'on est compétent. Et quand on est un éditeur indépendant, de se dire, ben voilà moi dans quel domaine je vais opérer. Essayer de trouver ce que l'on appelle en termes éditoriaux des niches. Des niches sont des secteurs sur lesquels il n'y a pas trop de monde et où l'on va essayer de, à condition qu'ils correspondent à ce que vous aimez, bien sûr, et qui vous intéresse, qui correspondent à des secteurs où on peut peut-être trouver une place, se développer parce que ils ne sont pas trop exploités. Alors, éditeur indépendant, c'est tout ça. C'est aussi l'avantage, à part les risques que l'on vient de développer rapidement, l'avantage, c'est qu'on a une vitesse d'exécution beaucoup plus rapide, plus grande que les grosses structures éditoriales qui ont une force d'inertie très grande, qui programment des livres longtemps à l'avance, qui vous diront, ah ben moi mon programme est bouclé pour les 2 ans à venir. Nous, on peut sortir un livre très vite. Par exemple, il y a le livre, je ne sais pas s'il est là, non, il doit pas être là. Il est là-bas. Le livre qu'on a publié sur Servet, de la liberté de Bûcher à la liberté de conscience. Eh bien, Bernard Cotteret m'en a parlé en novembre. J'ai pris contact avec l'auteur à ce moment-là. Il m'a envoyé le manuscrit. Le livre est sorti en janvier. Vous voyez, donc, on peut avoir une vitesse de pointe assez grande parce qu'il était urgent de le sortir, étant donné que l'année Calvin commençait. Il est toujours important de précéder l'événement que d'arriver en queue. Hein. Sortir un bouquin sur Calvin au mois de septembre 2009, c'est peut-être un peu tard. Hein. Donc, vous voyez, ça c'est l'avantage que l'on a, on peut aller vite. On ne peut pas le faire tout le temps, mais on peut aller assez vite. Alors là, on parlera du livre que nous allons sortir. Voilà. Donc, je fais tout ça un peu à la dispersée. J'ai donc créé les presses du Languedoc, j'ai commencé par les presses du Languedoc, parce que je me disais qu'il y avait là, puisque j'étais sur Paris, et je voyais dans les maisons où je travaillais, chez Belfond ou chez Stock, que des livres paraissaient sur les régions, sur des secteurs régionaux. C'était avant la décentralisation, avant la création des régions. Et étant originaire du Languedoc, je me disais que c'était peut-être parfois un peu dommage d'avoir un auteur qui habitait ici, qui écrivait sur la région, sur le patrimoine, sur l'histoire régionale. Le livre est monté à Paris, était fait à Paris, il redescendait pour être vendu ici. Donc, alors j'ai créé les presses du Languedoc pour voir si on ne pouvait pas économiser ce parcours. Et les presses du Languedoc, on a publié quand même pas mal d'ouvrages, très liés à trois grands thèmes, le patrimoine régional, l'histoire régionale, plus un peu de littérature, et protestantisme, et essentiellement autour du phénomène Camisard. Voilà, on va arriver donc au protestantisme. Et je rappelais tout à l'heure à Franck que un des premiers livres que j'ai publié, je crois que c'était le second en 78, c'était Le Théâtre Sacré et Cévennes, vous voyez. Le livre de Maxime Yamisson qui me passionnait, avec la préface de Jean-Pierre Richardot. Et le dernier à ce jour qu'on va publier aujourd'hui, c'est Le Calvin, qu'a animé l'équipe de Timothée avec Franck, donc qui est l'expo qui accouche d'un livre. Hein. Donc on voit un encadrement et un souci de tout ce qui touche au protestantisme, qui a été un de mes soucis très, très anciens. les presses du Languedoc, création en 77, les éditions de Paris qui se créent parce que des amis parisiens, j'habite à ce moment-là entre Paris et le Languedoc, je suis enseignant aussi en même temps, donc c'est beaucoup d'activités, j'écris aussi un petit peu quand j'ai le temps. Et puis des amis me disent, on aimerait bien créer une structure, alors on crée les éditions de Paris. Voilà. Donc ça me faisait beaucoup de choses à faire, et c'est vrai qu'on a duré quand même, les presses du Languedoc ont duré pratiquement 30 ans. On a publié à peu près 400 ou 500 titres, je ne sais plus combien. Et on a cédé les presses du Languedoc parce que c'est vrai qu'entre l'édition de Paris et les presses du Languedoc, on sortait quand même 35-40 livres par an, ce qui est beaucoup. Surtout aux presses où il y avait des livres très compliqués, beaucoup de livres illustrés, de gros livres qui comptaient facilement 400-500 illustrations. Donc des mises en page lourdes, des prix de revient lourds. Un livre de cette importance facilement revient à des prix très importants, donc des paris éditoriaux lourds, du personnel, des salariés, donc une charge qui fait qu'à un moment donné l'aspect créatif, l'aspect éditorial est un peu annihilé par l'aspect commercial, les soucis financiers, les rapports avec la banque, qui sont des rapports pas toujours agréables, qui sont renouvelés toutes les fins de mois. Les fins de mois, c'est une chose assez horrible dans l'édition. Et effectivement, donc, un équilibre qui a duré longtemps. Et en 2006, on cède les presses du Languedoc. Et je continue les éditions de Paris qu'on avait créées en 84. Voilà. Dans les éditions de Paris, continue. Et dans les éditions de Paris, toujours soucieux, quand j'ai créé les éditions de Paris, j'avais développé plusieurs thèmes, plusieurs collections, une collection de littérature, puisque je m'intéresse beaucoup à la littérature, naturellement, beaucoup à l'histoire, beaucoup au protestantisme, ça fait beaucoup de choses. Donc j'avais créé une section littérature, une section essais et documents, avec des biographies, des essais, des réflexions, etc. Une section témoignages, parce que j'avais chez stocke à l'époque une collection de récits de vie où j'avais publié La mémoire du village. Ceux qui connaissent peut-être ce livre, j'ai fait avec mon père chez Stock, que j'ai repris ensuite. La mémoire du village, qui a repris l'édition de Paris. La mémoire rurale d'un village du Gard, Brignan. En l'occurrence, j'avais accouché mon père de ses mémoires, de ses souvenirs. Et puis une collection bibliothèque protestante dans laquelle paraissent ces livres et va paraître le livre dirigé par Parfum. Voilà donc un petit peu toujours ce souci de l'inscription du protestantisme dans l'édition. Pourquoi ce souci ? Pour deux raisons. Je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, les origines protestantes font que le livre est important. L'autre jour, à Nîmes, quelqu'un citait une boutade en oubliant de dire de quelle était, c'est de Peggy. Peggy disant « Les juifs lisent depuis 2000 ans, les protestants depuis 500 ans et les catholiques depuis un siècle ». C'était en 1910, avant la guerre de 14.
Depuis leur
grand-père. Voilà, oui, depuis leur grand-père. Voilà. Donc, effectivement, ceci est pour des raisons, je dirais, théologiques, puisque les protestants étaient invités. Le livre n'était pas, il n'a pas besoin d'intercesseur pour avoir accès au livre. Donc ceci expliquait que beaucoup de protestants lisaient ou étaient accoutumés au livre. Et donc il me semblait que dans l'histoire, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était l'histoire protestante. La théologie protestante m'intéressait moins parce que je ne suis pas théologien, et donc je ne suis pas apte à juger d'ouvrages touchant à la théologie. Et puis je pensais qu'il y avait Labor et Fides qui faisait ça en Suisse, d'autres structures. Par contre, en matière historique, depuis Fischbacher, au siècle dernier et au 19e et dans l'entre-deux-guerres, il y a eu perte de l'édition protestante. Et il m'a semblé qu'il y avait des livres, notamment, et sur la région, j'ai développé ça de façon importante, La mémoire à Camisard, il me semblait que des livres méritaient d'être réédités, qui n'avaient pas été réédités, ou créés. La création qu'on a faite avec, c'était un vaste pari sur les itinéraires protestants en Languedoc, sous la direction de Cabanel, qui a été un travail de longue haleine de plusieurs années avec une trentaine de collaborateurs. La guerre des Cévennes, qui était un pari fou, 6 volumes, 3000 pages, 4000 illustrations. Je vais raconter une anecdote amusante. Le pasteur Bosque, que j'avais eu de façon épistolaire, j'avais lu son Roland. Et Roland m'a passionné parce que Roland est mort à Castelnau-Valence, à côté de Brignan, et toute mon enfance a été bercée par cette légende. Quand j'ai lu son Roland, j'ai pris contact avec lui, j'avais retrouvé ses coordonnées, et je lui ai dit « J'aimerais bien rééditer votre Roland ». Et il me dit « J'ai mieux que ça, venez me voir ». Il habitait Castres. Et j'arrive chez lui, et il avait une table, c'est important, à peu près, avec des manuscrits qui devaient monter à cette hauteur, comme ça. Il me dit « J'ai mieux que ça, voilà mon livre, voilà ce que j'ai fait sur la guerre des Camisards ». Alors je lui ai dit « Ce sont les brouillons ». Il me dit « Non, c'est le manuscrit ». Alors c'était énorme. Et donc j'ai dit « Mais il faut faire ce livre ». C'était un travail, pour ceux qui connaissent ce livre, « La guerre des Cévennes » en 6 volumes, grand format. C'était une somme, je dirais, pas heure par heure, mais presque, jour par jour, de la guerre des Camisards dans toute sa dimension à la fois régionale, mais nationale, européenne. Donc c'était un travail, il y avait travaillé 50 ans. 50 ans de travail, ce qu'on n'imagine plus, et 50 ans de travail avec quelqu'un qui, à l'époque, ne disposait pas des photocopieuses ni des appareils photos, donc il recopiait tout, à la Nationale, à Vincennes, aux archives de l'Hérault, etc. Donc un travail de bénédictin, tous les matins, il recopiait, il ordonnait, etc. Et son manuscrit était écrit d'une façon curieuse, une très belle main il avait, et alors ce qui était de son cru était l'écriture penchée à droite et les citations penchées à gauche. Donc, travail de... Donc tout ça a demandé à être un peu aménagé parce qu'un livre écrit sur 50 ans de durée, il y a des variations. Et puis il n'y avait pas d'illustration, il a fallu inventer des illustrations. Donc ça a été une entreprise assez extraordinaire. Et donc j'ai battu la campagne un peu partout, évidemment, pour photographier tout ce qu'il pouvait renvoyer, parce qu'il me semblait qu'un livre de cette importance, sans illustration, aurait rebuté les lecteurs potentiels. Alors ça, c'était une aventure de fou. Mais Dans ce domaine-là, effectivement, personne n'aurait parié un copec, parce que Henri Boss m'avait dit, j'ai vu plusieurs éditeurs nationaux qui m'ont dit, non, il y a tout à perdre, si vous trouvez quelqu'un qui le fasse, faites-le. Donc, il y avait tout à perdre. Alors, on a rien gagné, mais on n'a pas perdu, on a équilibré à peu près les comptes, ce qui est déjà pas mal, au prix d'un travail acharné, et évidemment, bénévole de ma part. Donc, le protestantisme, c'était de faire naître des projets, de faire des projets qui paraissaient un petit peu fous. Alors on en a un autre qui est un peu fou, quand Cabanel aura un peu de temps, mais Cabanel écrit beaucoup, avec beaucoup de qualité d'ailleurs, on a un projet qui est en marche depuis quelques années, c'est un dictionnaire des protestants français de 1787 à 2007. Voilà, donc c'est tous les protestants qui ont marqué l'histoire, à la fois les gens de religion bien sûr, mais les écrivains, les scientifiques, les hommes politiques, les économistes, les sportifs, les cinéastes, les chanteurs. Donc c'est un projet qui va faire 3-4 volumes de, je ne sais pas, 800 pages peut-être chacun. Enfin, encore un projet fou, mais je crois que il faut se déployer dans des secteurs où l'on est à même de pouvoir exister, où personne ne viendra évidemment vous faire de la concurrence, parce que, comme je disais, il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Mais en même temps, il faut arriver à équilibrer, naturellement, le problème est là, parce que sinon, si on prend trop de bouillon, comme on dit en matière éditoriale, il vient un moment où on dépose le bilan. Donc, il faut arriver à trouver un petit peu un modus vivendi qui permette d'avoir quelques livres qui marchent, puis des livres qui sont un peu plus dans la difficulté, mais qui sont intellectuellement, historiquement, des livres qui comptent. Je peux être un peu... Donc, voilà un petit peu le parcours. Alors, si vous voulez, par rapport à l'édition en France, l'édition protestante dont on parlait tout à l'heure représente peu de choses en termes quantitatifs. Puisque là, je vous dis, si vous voulez, par exemple, on a un petit peu les maisons d'édition en France. Sur 295 maisons d'édition qui comptent, 300 environ qui ont un peu d'épaisseur, hein, il y en a beaucoup plus, mais il y a des maisons d'édition qui sont cataloguées, des maisons d'édition qui font un livre par an, donc deux livres par an, c'est pas... Mais 12 font un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros, 12. 34 font un chiffre d'affaires entre 10 et 50 millions, 84 de 1 à 5 millions d'euros, 141 moins d'un million d'euros, et 56 maisons ont produit moins de 10 livres par année, 75... on produit plus de 200 bouquins. Donc, vous voyez, là, on a des maisons d'édition qui produisent peu. En fait, les 30 plus grosses maisons d'édition en France comptabilisent 90% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que dans ces gros groupes, évidemment, eh bien, vous avez le groupe Hachette. Avec quand on dit Hachette, c'est Grasset, c'est Fayard, c'est Hachette, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de maisons d'édition existent, apparemment indépendants, mais qui appartiennent à un groupe, qui suscite aussi lui-même l'émulation des concurrences entre les éditions. Mais Hachette, par exemple, qui est le groupe Lagardère. Il faut savoir que les gros groupes en France appartiennent... Lagardère, c'est le marchand d'armes. Hein. Donc, Hachette, c'est les armes, c'est Matra. 2 milliards de chiffre d'affaires. Editis, c'est la filiale de Planète, maintenant, qui est le gros éditeur espagnol, qui avait été racheté par le baron Sellière de Vendel, qui a été revendu. Le chiffre d'affaires, 760 millions d'euros. France Loisirs, qui appartient à Bertelsmann, un Allemand. Oui, déjà, on voit bien que l'édition n'est déjà pas possédée forcément par des éditeurs au sens noble du terme. France Loisirs, Bertelsmann, 380 millions d'euros. 24 millions de livres vendus chaque année, mais là c'est pas en librairie, c'est des réseaux, hein, des boutiques, donc une clientèle, 4 millions d'abonnés, c'est sa force. Atlas, qui est fascicule fiche, qui dépend d'un groupe italien, Agostini, 378 millions d'euros. Média Participation, qui est la BD, 300 millions d'euros. Ensuite, édition juridique Dalloz, édition législative, qui est en 6e position, avec près de 300 millions d'euros. Gallimard, qui arrive à 280 millions d'euros, avec ses filiales. Gallimard, c'est De Noël, c'est le Mercure de France, c'est tout un ensemble d'éditions aussi, plus des participations dans des petites maisons d'édition. Flammarion, qui est en 8e position avec 240 millions d'euros. Le seuil à Martinière, c'est-à-dire Volumen, la Martinière a racheté le seuil avec 237 millions d'euros. C'est des chiffres de 2007. Voilà les 9 premières, et puis il y a un groupe qui fait pour les jeunes, Panini France, qui lui arrive en 10e position. Voyez là-dedans, on a l'essentiel de la production et de la vente. Et alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et tout ça est un peu rapide, mais ça permet de brosser un petit peu un tableau. Aujourd'hui, on a une surproduction de livres en France. Surproduction, et j'ai les chiffres de 85. En 85, il s'est publié en France 29 000 titres. En 2007, 75 000. Oui, l'inflation est colossale. Donc 37 000 nouveautés, 38 000 rééditions. La production en 85, 365 millions de volumes. En 2007, 655 millions de volumes. Donc ce qui veut dire que le nombre de titres a explosé, mais le tirage moyen a diminué et les ventes stationnent. Donc on a là un problème de fond, c'est que l'édition ne marche pas si bien que ça, même si le salon n'a pas été mauvais, hein, et que donc les éditeurs ont tendance à publier des livres pour faire ce qu'on appelle l'office. Les gros groupes font ce qu'on appelle l'office, c'est-à-dire que le libraire reçoit d'office des livres qu'il ne peut pas refuser, et qu'il paie, et qu'ensuite il renvoie, et qu'on lui rembourse, il y a d'autres offices. Et ce tournoiement fait qu'on met en place des bouquins. Dans certains cas, on a des retours, puisqu'on met de force des bouquins, qui ne sont pas forcément, eux, vendables ou vendus. On peut avoir des retours jusqu'à 60-80%. Donc, ça veut dire une déperdition de livres qui vont être pilonnés. Ils ne retournent même pas chez l'éditeur, ils disparaissent, ils sont pilonnés. Et donc, pour remplacer le manque à gagner, parce que si un bouquin revient à 80%, évidemment, la mise de fonds n'est pas récupérée, bien on produit de nouveaux livres pour faire un nouveau de la mise en place. C'est une forme de cavalerie, évidemment, qui fait que de temps en temps, il y a des rattrapages, comme Garnier, c'était l'ancien pour ça, avait disparu. De temps en temps, on voit des boîtes qui s'effondrent parce que c'est un problème. Donc, on a cet aspect des choses qui fait qu'aujourd'hui, il y a une concentration de plus en plus grande et que les gros groupes dont je parlais tout à l'heure ont tous développé un système de diffusion-distribution. Hachette a son système, Gallimard a son système, Flammarion, Editis a son système, Volumen a son système, qui à la fois diffuse, distribue, quelquefois des participations dans certaines librairies, dans certaines chaînes, et donc place leurs livres. Alors les autres éditeurs, soit dépendent de ces circuits, soit qu'ils en dépendent en étant, sans qu'on le dise, propriétaires en partie ou en totalité de certains gros éditeurs, soit qu'ils soient en fin de course et effectivement avec des mises en place qui ne seront pas forcément très ciblées. Donc c'est un vrai problème pour les petits éditeurs et moyens éditeurs. Par exemple, je vois le chiffre que je donnais sur le volume d'ouvrages qui était Hachette, par exemple, distribué en 2007, 300 millions de volumes, et Harmonia Mundi, qui est un diffuseur, distributeur de taille très moyenne, moins de 3 millions de volumes. Et la disproportion qu'il y a. Ce qui fait que quand on a affaire à des gros groupes de diffusion-distribution, il y a ce forcing de l'office, parce que si le libraire refuse l'office, il est pénalisé quand arrivent les prix ou les livres qui marchent bien, le Da Vinci Code et tout ça. Si le libraire refuse l'office, eh bien, au lieu d'avoir 50 exemplaires d'un moyen qui marche bien, il n'y en aura plus que 5-6. Donc il est obligé d'accepter les offices. Par contre, pour les petites structures et les moyens diffuseurs et distributeurs, eh bien, c'est une pratique, ce qu'on appelle le noté. Le noté, c'est-à-dire que le libraire reçoit ce qu'il commande, ce qui a été noté, d'où le titre noté et office. Et avec faculté de retour quand même. Il le commande ferme, mais s'il ne le vend pas, il le retourne. Donc l'éditeur, en dernier parcours, eh bien, c'est lui qui récupère ce qui ne se vend pas. Donc, il est le plus mal placé de tout parce qu'il produit le livre. Et s'il n'est pas vendu, il le récupère et puis il en fait des confettis. Parce qu'après, s'il veut le solder aujourd'hui, les soldeurs sont accablés de livres. Et donc, vous prenez les livres quand ils les prennent à 2% du prix public. Donc, des chiffres ridicules quand ils veulent bien les prendre. Parfois, ils vous les prennent gratuitement. Ils acceptent de payer le port, quelquefois. Donc, pour vous dire qu'en dernière limite, l'éditeur doit faire, indépendant, doit faire une réflexion très forte en amont pour ne pas se lancer sur des projets qui vont très mal marcher parce que les bouquins, ben, il les récupérera. Il faudra qu'il les stocke, ça coûte très cher, le stockage est très cher. Et puis, il faut payer la fabrication si on ne vend pas les livres. Donc, comment fait-on ? C'est ce problème-là. Alors, donc, on est confronté, les éditeurs de notre taille, mais c'est un peu le problème des autres éditeurs, pas simplement protestants, qui ont des diffusions pas terribles, hein, et des tailles, que ce soit le Berger l'Image ou la Borel Fides, pour citer eux, qui sont dans des difficultés. Alors, par exemple, les Berger l'Image ont aussi des diffusions militantes. C'est important quand on peut avoir une diffusion militante. Au niveau de créneaux que l'on va toucher, de public que l'on va toucher, complémentaire, ce que fait la librairie Jean Calvin avec, évidemment, tout ce travail que vous faites qui permet de toucher des publics qui ne sont pas que des publics qui vont entrer dans la librairie. Je crois qu'aujourd'hui, sur des secteurs difficiles où l'on est, le problème, c'est d'aller au-devant des lecteurs et pas simplement d'attendre que le lecteur vienne à vous, parce que là, c'est une position difficile. Alors, au niveau des presses du Languedoc, on avait créé une diffusion régionale. Outre, on avait une diffusion nationale, mais on avait créé une diffusion régionale avec 400 points de vente, avec un représentant qui tournait. Et on avait créé des points de vente dans des tout petits villages où il n'y avait pas de librairie, mais ça peut être un petit point de presse, une épicerie même. On avait certains exemples d'épicerie qui s'était développée au niveau librairie, à tel point qu'après la librairie était devenue plus importante que la partie épicerie, ce qui était fabuleux. Mais dans des coins où le plus proche libraire était à 30-40 km, et des personnes d'un certain âge n'allaient pas à la ville acheter des livres, mais qui étaient des lecteurs potentiels. Et donc il fallait que le livre vienne à ces personnes. Et on avait réussi ce tour de force d'avoir 400 points de vente qui tournaient bien, qui étaient quelque chose d'important dans des coins tout à fait perdus de toute la région. Et puis, bon, le successeur a supprimé ça, ce qui, à mon avis, était une hérésie, mais c'est comme ça. Donc, c'était de toucher des secteurs parallèles, complémentaires, de ne pas tourner que sur la librairie traditionnelle, parce qu'il n'y en a pas partout des libraires, et que donc... ce que vous faites, vous, c'est d'aller sur ces secteurs, d'aller vendre le livre, le proposer ailleurs que là où il y a des lecteurs immédiats. Donc, c'est, je crois, aujourd'hui, l'édition, c'est d'être inventif, c'est d'être, de trouver, comme je disais, des niches, de trouver des lieux, des types de livres que l'on va pouvoir développer, que d'autres ne feront pas parce qu'ils seront lourds à faire. Ils seront un peu dubitatifs là-dessus. Aujourd'hui, de plus en plus, les libraires, à part la poignée de libraires que l'on qualifie de libraires de qualité, qui doit, sur la France, on considère qu'il y a à peu près 300-400 libraires de qualité. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent aux livres. Les autres font des piles et attendent que la pile... Quand il n'y a plus de pile, on refait une pile. Moi, je me souviens d'un libraire qui m'avait dit « Ben non, votre livre est intéressant, mais il ne m'intéresse pas commercialement, parce que si je le mets là, ben... il mettra peut-être plusieurs jours pour se vendre, ou peut-être se vendra pas. Si je mets une pile dans le livre qui marche, la pile, ce soir sera vide, je la referai demain, elle sera pleine et elle le recevra de nouveau. Donc, c'est une place perdue, je préfère mettre une pile. » Il était très franc, il avait raison, en termes de rentabilité. Et ça, aujourd'hui, on voit de plus en plus de librairies ou de grandes surfaces où on ne peut pas demander de conseil, on vous renvoie en disant « Vous voyez si vous le trouvez. Hein. » voyez si vous l'avez, avez le bouquin. Je sais, c'est très rare aujourd'hui de trouver des libraires qui peuvent vous renseigner quand on leur dit ce bouquin, j'ai oublié le titre, j'ai oublié l'auteur, j'ai oublié l'éditeur, mais voyez, ça parle de ça. Il y a quelques libraires qui disent ah, voilà. Il y a un libraire au boulevard Raspail, il y a un libraire Gallimard Raspail, parfois j'ai des souvenirs qui fichent un peu le cas, et c'est un libraire extraordinaire, je lui dis, mais ce livre, il me dit, hop, c'est ça. Je lui dis, oui, c'est ça. Alors, mais ça, il y en a de moins en moins. Beaucoup d'endroits, à un moment, les FNAC étaient des FNAC de qualité, à une époque, vous avez, aujourd'hui, il y a des FNAC où on vous dit, écoutez, voyez si vous le trouvez. Et donc, je crois que là, il faut essayer de travailler avec des libraires qui vont prendre votre livre et le vendre, parce que s'ils le prennent, sachant qu'il y a une clientèle pour, ils sont un libraire qui connaît bien son public peut savoir quel lecteur il peut lui dire ce livre, c'est pour vous, et le lecteur le prendra. Tu connais, vous pouvez en parler. Je crois que cette connivence avec le libraire est fondamentale, à condition qu'on ait un libraire avec qui l'on puisse dialoguer. Et ça, c'est un atout. Il reste quelques libraires. Je crois qu'il faut vraiment les sauvegarder. C'est le fer de lance. Parce que vous savez, il y a des pays où il y a pratiquement plus. Aux États-Unis, il y a des villes où il n'y a pas de librairie. Il n'y a plus de librairie. Et des villes non négligeables. Donc, il faut sauvegarder la librairie, parce que je pense que le livre est quand même quelque chose de fondamental, que ne remplacera jamais la télé, c'est ce contact, ce tête-à-tête avec le livre, et effectivement, est indispensable. Et je crois qu'aujourd'hui, si on regarde un peu les chiffres de vente, on peut voir, par exemple, que les ventes sur Internet se développent un peu, mais ne représentent pas, contrairement à ce qu'on peut penser, par exemple, sur les ventes, Internet représente 8% des ventes. Les librairies 22%, les grandes surfaces spécialisées 25%, les supermarchés 20%. Sachant que dans les supermarchés, on va avoir essentiellement les livres qui marchent. Le nombre de titres qu'on va trouver ne sera pas du tout pareil entre un supermarché qui aura tendance à ne prendre que les bouquins qui tournent seuls, les trucs qui sont à la mode, et une librairie qui aura un choix de titres beaucoup plus grand. Mais vous voyez, la proportion est là. Et donc, aujourd'hui, Internet se développe pour des coins où il n'y a pas de librairie aussi. Parce que rien ne remplace le contact avec la librairie, la visite dans une librairie. Enfin, pour les amoureux du livre, ça n'a pas de prix. Mais effectivement, pour des gens qui habitent loin de partout, eh bien, Internet est une solution pour se procurer un livre s'ils sont âgés, s'ils ne se déplacent pas. C'est un pis-aller, mais je crois que ça ne remplace pas l'odeur, le contact, parce que le livre, c'est quelque chose de charnel. Hein. C'est intellectuel, mais c'est charnel aussi. D'autres... Là, j'ai un petit peu en ordre dispersé tout ça, mais enfin, ça permet de brosser un petit peu, très rapidement, un portrait de l'édition, en disant que rien n'est désespéré, de toute manière, hein, qu'il faut continuer à se battre. Ça fait quand même depuis 70, ça fait quand même un moment que je me bats. Et donc je ne me suis pas enrichi, non, l'édition, bien sûr, j'ai même perdu de l'argent, je ne me suis pas payé depuis très très longtemps, mais je crois que c'est une passion. Je dis toujours que l'édition, c'est une danseuse, voilà, bon, il faut le vivre comme tel, et se dire que c'est un plaisir intellectuel, un plaisir artisanal, et puis un plaisir de communication. Je crois que un livre, et c'est là que le problème de la diffusion en compte, un livre c'est fait pour être lu, pour toucher un lecteur. C'est pas pour faire un livre, pour dire il est réussi, il est beau, je suis content de lui. S'il ne touche pas de public, on a loupé complètement notre histoire. Ça sert à rien de faire un livre pour soi. Un livre, s'il n'a pas de lecteur, c'est un échec. Si on n'en parle pas, ça c'est un autre problème, pour faire parler d'un livre, c'est très compliqué aussi. Si on n'en parle pas, c'est malheureusement, on parle toujours des livres qui marchent tout seuls. Quand on regarde la presse spécialisée le jeudi, pour faire l'expérience, eh bien on voit un peu qu'on parle toujours des mêmes livres, que ce soit Le Monde, Le Figaro, Libération. C'est un peu toujours les mêmes livres que l'on encense, que l'on met en avant. Et c'est très difficile de faire parler des livres, même en se bagarrant. Il y a trop de livres qui sortent, il y a peu de place. Et donc, pour faire parler d'un livre, c'est un parcours du combattant. Or, faire parler d'un livre, ça fait plaisir à l'auteur, bien sûr, ça fait plaisir à l'éditeur, mais aussi, c'est une façon de maintenir le livre en librairie. Un libraire qui a un livre dont on ne parle pas, si on n'en parle pas, le lecteur ne le demande pas. Si on ne le demande pas, le libraire ne le garde pas, il le renvoie. Si on en parle, il y aura un lecteur qui va voir l'article, il pourra le demander, et le libraire dit, il dira, on m'a demandé ce livre, je le garde, je ne le renvoie pas. Donc, la presse ou les radios, surtout la presse, la télévision encore plus, mais c'est encore plus, et par contre, comme maintenant, pour avoir des émissions de télé, il y a tellement de monde en portillon, c'est une façon de maintenir le livre en place, et surtout de le maintenir en facing, ce qu'on appelle, hein, en facing, c'est comme ça. La plupart des livres, mais ça, pour avoir un facing, c'est très compliqué chez un libraire, parce que ça prend de la place. Alors, en général, si le livre, on ne le demande pas, il est mis comme ça, sur des rayonnages, alors là, plus personne ne le voit, donc on est sûr que là, il ne se vend pas. Donc, essayer de trouver un facing, c'est très difficile, et tout le monde... Alors, demander aussi un livre à la caisse, en pile, alors là, c'est aussi encore plus compliqué. Donc, tous ces problèmes-là, ça fait partie du métier d'éditeur. Donc, il n'y a pas que le côté intellectuel, effectivement, qui est le côté, certainement, des côtés les plus agréables, bien sûr, de faire naître un texte, de ressusciter un texte oublié. Ça, c'est passionnant. On va sortir avec Vincent Schmitt aussi, on va rééditer sans doute un livre de Castiglione, voilà, des choses comme ça. Donc, c'est de remettre en selle des bouquins qui, par-delà le temps, sont toujours d'actualité. Un livre, ce qui est passionnant, c'est que un bon livre ne se démode pas. Un livre nous parle toujours, et c'est ce qui fait le charme des grands livres, c'est qu'ils ne prennent pas de rides. On est un peu les accoucheurs de ces choses-là. Et moi, ce que j'essaie de faire aux éditions de Paris, dans la section littérature, dans ce domaine de littérature, c'est de créer quelques textes, mais aussi de rééditer des textes oubliés, d'auteurs connus parfois, mais de textes parfois qu'on jugeait secondaires, qu'on n'a pas réédité, de les rééditer. Et pareil dans les essais, et pareil dans le domaine bibliothèque protestante. Donc, des créations, mais aussi des résurrections. Voilà, un petit peu cette histoire de l'amour du livre, qui est incurable, hein, c'est une maladie, une bonne maladie, je dirais. Mais en même temps, qui est très enthousiasmante, mais très hasardeuse, et très, il faut y consacrer, je dirais, tout. C'est-à-dire qu'un éditeur, moi, chaque fois que je travaille dans un tas de boîtes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours vu les éditeurs partir chez eux avec des tas de bouquins pour le week-end. Quand je m'en vais en Cévennes, j'ai une maison, j'emporte toujours de quoi lire pendant au moins 6 mois. Mais je me dis, on ne sait jamais, peut-être j'irai vite, alors j'emporte toujours 200 ou 300 pages. Évidemment, j'en lis 10 ou 15 ou 20, parce que... Mais on est toujours à lire en mangeant, le soir dans son lit avant de s'endormir. Donc, toujours ce souci de lecture, ce souci de s'enfouir dans le texte, et puis après de voir ce qu'on peut en faire, si on peut faire naître un livre à partir de ça. Voilà, donc c'est cette passion chevillée au corps. Alors, maintenant, je crois que j'ai parlé beaucoup, peut-être. C'est autour de questions que l'on peut discuter sur tel ou tel point dont je n'ai pas forcément parlé.
Tout à fait. Ou des réactions, des interventions. Soyez libre.
Je me demandais quelle était la place du réseau, par exemple, dans votre maison d'édition. C'est quelle place tient le réseau protestant, les relations amicales?
Alors le réseau, l'amitié joue très fortement dans l'édition. C'est un milieu où tout le monde connaît tout le monde. C'est un milieu très petit, finalement. Au niveau parisien, les éditeurs se tiennent dans un carré. Bon, maintenant, avec le développement, ils se sont un peu expatriés, mais avant, c'était le 5e, 6e arrondissement, 7e. C'était très quartier latin et adjacent. Maintenant, certains ont émigré en se développant, Flammarion et d'autres sont allés vers la Bibliothèque nationale, la Grande Bibliothèque. Donc, dans ce milieu, on voit passer beaucoup de monde qui... Souvent, on va d'une boîte à une autre, on voit des gens, on dit où en es-tu maintenant? Ah ben, j'ai quitté de Noël, je suis chez Flammarion, etc. Donc ça tourne. Donc des auteurs que l'on suit, et effectivement, dans ce milieu, les auteurs, c'est précieux parce qu'il y a des fidélités, des gens qui vous aiment bien parce qu'on fait des livres qui ne sont pas faciles, on fait des beaux livres, bon, je pense à Bernard Cotteret, qui est un fidèle, un ami, avec qui on a publié plusieurs livres, ce qui Évidemment, il fait d'autres livres chez d'autres éditeurs, mais de temps en temps, il y a un livre qui il me dit ben, ce livre, j'aimerais bien que tu le fasses. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a publié le traité des reliques. Enfin, c'est moi qui l'ai un peu poussé à le faire. Parce que ce texte me plaisait beaucoup, il est très impertinent et très intéressant. Et je me disais qu'il y avait eu déjà des rééditions du traité des reliques, mais il me semblait qu'il était intéressant de le rééditer avec la patte Cotteret, si vous voulez. C'est-à-dire que Cotteret l'a modernisé, pas au niveau du texte, on n'a pas touché la prose de Calvin, naturellement, mais l'a modernisé au sens d'une introduction qui montre la modernité de ce texte. Et puis une postface qui montre l'impertinence aussi. Donc d'essayer, quand on peut, de rajeunir des textes en les resituant dans notre temps, en disant ce texte parle à notre époque. Et d'ailleurs, à ce point, c'est amusant, parce qu'il y a eu une très bonne critique de Jean-Jacques Marie dans la Quinzaine littéraire. Jacques Marie, c'est un spécialiste de Trotsky. C'est un trotskiste très connu, un vieux trotskiste, et qui a dit « Ce livre est admirable. Malheureusement, les reliques n'ont pas disparu. » Et il dit « Aujourd'hui, la publicité, les vedettes, il y a de nouvelles reliques. » Et il n'a pas tort. C'est vrai, quand on voit les gens se précipiter à un chanteur demander une dédicace ou le toucher à demander un morceau de chemise ou un bout de guitare, on a de nouvelles reliques. Elles ne sont plus religieuses, mais c'est une autre forme de religiosité. Donc, lui qui n'est pas suspect d'être religieux pour deux sous a trouvé ses livres très très bons et a conseillé la lecture. Vous voyez, donc, c'est de montrer à chaque fois qu'un livre peut parler à un public d'aujourd'hui. Alors, c'est en cela que je trouve que des auteurs pour ce livre. Maintenant, ce livre de Bernard Cotteret est un livre de création, La République et le Royaume. Il s'agissait d'un certain nombre d'articles ou d'interventions lors de conférences ou de participations à des colloques et autres qui touchaient la République et le Royaume. Il m'en a parlé, donc je l'ai fait un peu retravailler pour lui donner plus d'unité. Et il me semblait qu'il y avait là un texte qui est un peu difficile, mais qui posait le problème, avec ce titre, La République et le Royaume, qu'est-ce qui relève du royaume, qu'est-ce qui relève de la République, qu'est-ce qui relève du religieux, de la laïcité, un problème qui traitait à travers l'histoire, à travers Rousseau, à travers Calvin, à travers Luther, à travers aujourd'hui, pour montrer que ce problème-là de la séparation des pouvoirs, eh bien, reste toujours d'actualité. Nous le voyons en permanence avec le retour du fondamentalisme, et que donc ce livre s'inscrivait dans, tout en touchant à l'histoire, s'inscrivait dans la réflexion d'aujourd'hui. C'est toujours ce problème qu'il avait fait un peu avec la Renaissance, Civilisation Barbarie, où il montrait que la Renaissance était très proche de notre siècle, en ce sens c'était un livre comme le XXe siècle, où l'homme était capable du pire et du meilleur, à la fois de la barbarie. La Renaissance est une période de découverte, d'invention fabuleuse, en même temps de massacres épouvantables. Mais notre époque, en cela, excelle. Je crois que le XXe siècle est un siècle admirable au niveau des massacres. On est arrivé à un sommet. Mais je ne sais plus quel est l'écrivain russe qui a dit « Mais le XXIe siècle sera certainement encore meilleur. » Espérons qu'il se trompe. Mais donc, c'est de montrer que l'histoire est chaotique, l'histoire n'est pas linéaire. Et donc, ce livre m'a passionné. Alors, on a fait, je prends un exemple sur Jacques Poujol, on a fait la France protestante, on a fait les protestants dans la France en guerre. Le rôle des protestants, c'était peu connu, le rôle des protestants dans la résistance, dans l'après-guerre, dans l'économie, etc., de montrer le rôle qu'ils avaient joué. Donc, chaque fois, c'est de dire sur des secteurs peu connus, eh bien, est-ce qu'on peut soulever un coin du voile? Est-ce qu'il y a un auteur qui va travailler sur ce secteur-là? Donc, je crois que là, c'est un réseau d'amitié qui compte, et un réseau d'écrivains, d'intellectuels, de penseurs, d'historiens, sur lesquels on va dire... Ben, alors, ça peut être à la fois quelqu'un qui va vous apporter un projet, mais ça peut être aussi... ce réseau, ça peut être aussi de susciter chez un auteur une idée en disant, mais tiens, il me semble que ça serait pas mal, qu'est-ce que tu en penses? Développer cette idée-là, ce projet-là. Et c'est l'édition, c'est toujours un travail collectif. Ce n'est pas une aventure solitaire. On est toujours, on va de pair avec, pareillement dans la fabrication d'un livre, avec un maquettiste, avec une attachée de presse. Tout avance, on est toujours à plusieurs voix. Pareillement, quand on fait un livre, moi je demande toujours autour de moi qu'est-ce que tu penses de la couverture? Les quatrièmes de couverture, je les fais relire à plusieurs personnes. Ah oui, moi, je ne comprends pas ce qui est écrit. Ah bon, moi, je fais des quatrièmes depuis fort longtemps, donc j'en ai fait des milliers. Mais il faut toujours les tester. Une couverture aussi, est-ce qu'elle est lisible? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, on me dit, oui, mais je ne comprends pas ce que tu veux. Ah, donc, il y a un problème. Moi, ça me parle, mais si ça ne parle pas à quelqu'un qui est extérieur au livre, c'est pas bon. L'auteur vous dit, ça c'est bien, mais les gens comprendront en lisant. Je dis, non, ils ne comprendront pas en lisant. Ils ne liront que s'ils sont intéressés par le bouquin. Si la couverture, vous savez, en termes d'édition, c'est la couverture qui fait l'appel. La quatrième qui va susciter l'intérêt culturel, si vous voulez, on va s'interroger au contenu, et puis en feuilletant, on verra si l'écriture vous plaît. Donc il y a trois types de regards. Et si le premier regard est perdu, si on ne voit pas un livre sur une table par rapport à 50 ou 100 bouquins, quand vous allez à la une, il y a 200 bouquins sur les tables, eh bien, ils se nuisent l'un l'autre. Il faut donc que votre couverture soit attractive et que, on dit toujours, et ça tu le sais, qu'un livre qu'on a pris dans les mains, c'est déjà un grand pas de fait. Quand un lecteur a un livre dans les mains, déjà on se dit, il y a un premier pas important. On le voit tourner, il lit, on le voit feuilleter, on dit, ah, il y a des chances qu'il achète le livre. Et oui, mais c'est comme ça. Après, il le lira ou il ne le lira pas, c'est un autre problème. Mais s'il ne le prend pas dans les mains, là, il y a peu de chances.
Donc, je peux dire ce que c'est la Lune.
La Lune, c'est une grosse librairie boulevard Saint-Germain, près de Saint-Germain-des-Prés. Et donc, il y a beaucoup de livres, mais on pourrait dire pareil, de Fnac, de certains, à Montpellier, de Sorams, qui a, je crois que Sorams a 150 000 titres. Alors que beaucoup de librairies ont beaucoup moins que cela. Donc, on a des ne parlons pas des grandes surfaces qui ont beaucoup moins de titres. C'est important. Alors, si vous voulez, moi, il ne faut pas trop rentrer dans les librairies, parce que si on rentre dans les librairies où il y a beaucoup de titres, si on est éditeur, on est un peu effrayé en se disant, mais pourquoi faire encore des livres avec tout ce qu'il y a là? Quelle chance a mon livre qui va apparaître au milieu de tous ces bouquins? C'est un coup à désespérer. Et quand, pareil pour les salons, quand vous allez au Salon du Livre à Paris ou à Francfort, quand vous voyez ces millions de bouquins, on se dit, mais il faut être complètement timbré de faire encore des livres. Vous voyez, je crois qu'il faut en même temps savoir que ça existe, qu'il y a des choses qui se font. Il faut quand même voir ce qui est en train de se faire, ce qui est annoncé, pour éviter de faire un livre qui va paraître en même temps que le vôtre, parce que ça, vous allez vous ramasser, comme on dit. Donc il faut se tenir au courant, mais en même temps, il ne faut pas être trop influencé par ce qui se fait, sinon on ne fait plus rien, en se disant, ma folie est telle qu'il vaudrait mieux que j'arrête. Donc il faut être fou, mais un petit peu, mais modérément quand même.
Et pour revenir à la question du réseau un peu protestant, oui, c'est vrai que c'est toute la bibliothèque protestante, que tu as édité auprès du Languedoc ou même aux éditions de Paris, est quand même lié à un réseau d'amis protestants comme Cabanel, en tout cas de culture comme Cabanel, ou même de foi, hein, comme Bernard Cotteret, des gens comme Laurentès, je pense aussi à Vincent Schmitt, qui sont servés. Et au fond, les auteurs qui sont des auteurs de tradition, d'origine ou de foi catholique sont très rares. Dans les ouvrages que tu publies dans la bibliothèque protestante. Donc il y a quand même un réseau protestant protestante.
Et puis il y a également, je dirais, un public qui est fidélisé. Un public, moi je vois, par exemple, quand on allait au Musée du Désert, on avait un stand au moment des presses du Languedoc, on avait beaucoup de livres sur le protestantisme en région. On avait beaucoup de gens qui revenaient, bonjour, depuis l'an dernier, ça va, qu'est-ce que vous avez publié? Alors, il voyait les nouveautés et il disait, je vais acheter une nouveauté. Donc, il y avait ce public très fidèle qui achetait systématiquement tous les livres qui sortaient en me disant, mais je ne veux pas me vanter en disant ça, mais si vous la publiez, je lui disais, vous voyez, il faut voir ce qu'il y a dedans. Ça, il m'a dit, si vous la publiez, est-ce que c'est intéressant, je l'achète. Donc, il y avait cette fidélité très grande, cette confiance très forte qui met beaucoup de temps à se bâtir, mais qui est indispensable. Avoir une inscription pareille dans la mémoire, dans la confiance d'un public protestant ou autre, on peut avoir aussi des gens intéressés par l'histoire protestante, la culture protestante, qui ne sont pas forcément des confessions protestantes, bien sûr. Mais donc ça, c'est quelque chose de très important. Et que l'on rencontre, je le vois aussi au Salon du Livre à Paris, on a quand même des gens qui viennent chaque année et qui viennent vous voir. Et donc c'est important d'y être parce que si vous n'êtes pas là, ça veut dire que pour beaucoup de gens, c'est que vous avez disparu. Ou que vous avez déposé le bilan, vous êtes mort. On nous enterre facilement dans cette société moderne. Donc si vous n'êtes pas présent, c'est que vous n'êtes plus de ce monde, bien souvent. Donc il faut être toujours à se montrer, à montrer qu'on existe, à sortir des livres. Alors là, actuellement, Éditions de Paris, on publie à peu près une douzaine, quinzaine de livres par an. C'est beaucoup moins lourd à réaliser qu'au Presse du Languedoc, où on avait beaucoup de livres illustrés. La plupart des livres que nous publions aux Éditions de Paris sont des livres essentiellement de textes. Donc beaucoup moins de complexes à mettre en page, moins onéreux au niveau de la fabrication. Il faut savoir qu'un livre où il y a beaucoup de photos couleurs est imprimé en quadri, donc coûte beaucoup plus cher. On faisait beaucoup de grands formats, ce qui voulait dire des reliures, donc on a un coût qui est beaucoup plus important que là. Et là, on peut faire appel, on n'a pas besoin d'avoir des collaborateurs comme nous avions au niveau des presses, on avait des salariés. Là, on peut faire appel à des collaborateurs extérieurs, donc travailler à l'économie de telle sorte que ce qui nous permet de tenir, c'est que nous travaillons à l'économie de telle sorte que le prix de revient d'un livre, on le fait le plus bas possible pour essayer de le vendre au prix de revient, le prix public de vente et fonction du prix de revient, bien sûr, pour arriver à un prix de vente qui soit très étudié pour toucher le maximum de public. Évidemment, ça veut dire qu'on travaille bénévolement, on n'est pas salarié comme dans des grosses boîtes, il y a des gros salaires dans certaines grosses boîtes, et qui donc font que le seuil de rentabilité d'un livre est beaucoup plus élevé du fait de ses frais généraux très lourds. Donc, ce qui permet de fonctionner à l'économie tout en faisant, en étant soucieux toujours quand même de la qualité du livre. La qualité à la fois du texte, bien sûr, la qualité intellectuelle, historique, et puis la qualité de la présentation, d'essayer de faire des livres qui soient agréables, parce que je crois que le livre, c'est à la fois une lecture, un contenu, mais aussi un contenant. Un livre, il y a un plaisir. Il y a un plaisir du texte, il y a un plaisir du livre. Et je crois qu'un livre rébarbatif, on n'est pas en amitié avec lui. Moi, je trouve que moi, le premier souci quand un livre arrive de l'imprimerie, c'est je le sens d'abord. Ça, c'est toujours une chose. Celui-là, je le sens plus parce qu'il est déjà ancien. Mais c'est de voir quelle odeur il a, parce qu'il n'y a jamais un livre dans la même odeur qu'un autre. Donc, c'est de voir le papier, c'est de voir comment ça se présente. Donc, il y a ce contact très sensuel avec le livre. C'est quelque chose de très sensuel et de très intellectuel. Et donc c'est cette conjonction qui est passionnante dans le livre. Pas au niveau éditorial, seulement au niveau lecteur, bien sûr. Évidemment, les éditeurs en général sont des lecteurs. Moi, j'ajoute à cela, mais ça doit être, je sais pas, c'est une hésitation première. J'écris aussi, donc c'est vrai que toute ma vie, j'ai été partagé entre le souci de l'écriture et le souci de l'édition, ce qui n'est pas toujours facile à ménager, à faire aller de pair. Mais les deux me passionnent. Bon, j'ai publié quelques livres, chez d'autres éditeurs d'ailleurs. Voilà. Quand j'ai un peu de temps, je continue.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres marques?
Monsieur Roland a sorti il y a quelques années un dictionnaire des Camisards, extrêmement intéressant. Monsieur Gilbert avait fait le dictionnaire des Galériens. Est-ce que vous savez toujours quelqu'un vous proposera de sortir le dictionnaire des 2500 familles de protestants qui portent les armes à la veille et les Nantes encore?
Alors, il faut voir s'il y a... il faudrait voir s'il y a un auteur, déjà. Ouais. Si vous voulez, moi, je suis toujours ouvert à tous les projets. Hein, à tous les projets, de telle sorte que je puisse me faire une opinion, que ce soit sur un livre écrit ou sur un projet sous forme de synopsis. Parce que je pense que dans le domaine de l'histoire du protestantisme, il y a des tas de secteurs qui ne sont pas encore couverts, effectivement. Et je vois ce qu'on a fait au niveau des Camisards. On a publié beaucoup de livres. Certains ont été réédités, d'autres pas depuis très longtemps. Depuis très longtemps. On a réédité des bouquins qui n'avaient pas été réédités depuis le XVIIIe siècle, depuis le début du XIXe siècle. Donc, je pense que là, il y avait des choses à faire. Et puis, la création, Dictionnaire des Camisards de Pierre Roland, qui est un travail de bénédictin. Il a travaillé des années et des années. Et là, il prépare quelque chose de monumental aussi sur le dictionnaire des prédicants, des fugitifs. Il passe sa vie dans les sources à rechercher à Genève, à Paris, à Montpellier. Je crois qu'il doit venir. Hein, oui. Et effectivement, lui, c'est quelqu'un de très précieux. Et c'est passionnant de voir un petit peu l'édition, le virus qui se transmet. Si vous voulez, j'en parlais à Pasteur Henri Bost de la guerre des Cévennes, qui a vu le virus par Charles Bost, historien du début du XXe siècle, qui avait aussi donné le virus à Philippe Joutard. Et puis, des gens comme Cabanel, c'est Joutard qui l'a communiqué le virus, pareil pour Pierre Roland. Et donc, il y a des renouvellements. La maladie de l'histoire, de l'histoire du protestantisme, se transmet comme ça. Alors que Pierre Roland n'est pas protestant. Je ne sais même pas s'il est croyant, mais il est passionné par l'histoire protestante. Donc, on arrive à voir des gens qui finissent par être tellement passionnés que tous leurs loisirs y passent. Pierre Roland, c'est quelqu'un, tous ses loisirs, il les passe à Genève ou à Paris, à travailler en bibliothèque, à trouver des archives privées, pour arriver à exhumer, et c'est ce qui est passionnant dans l'histoire, dans l'édition, pour ressusciter des morts dont personne ne parle plus depuis 300, 400 ans. De redonner vie à des gens qui sont morts pour la cause et qu'on a oublié, qu'on a enterré. Eh bien, c'est de les ressusciter. Et c'est une entreprise fabuleuse, fabuleuse, de dire que ces gens vont retrouver une identité et vont retrouver la place qu'ils méritent. Alors, ça, c'est un boulot passionnant.
Parce que, comme on dit, les historiens, effectivement, sont peu nombreux, c'est vrai. Alors que les généalogistes, ben, c'est bien, c'est parce que toute la France, maintenant.
Alors, voilà.
Il y a un nom, mais, un bouquin à leur famille.
Oui, mais alors. Ils vont l'acheter. Voilà, mais, bah, absolument. Mais, les généalogistes, il y a beaucoup de généalogistes qui vont travailler pour leur compte personnel, pour la famille. Mais des historiens qui vont faire une synthèse, c'est pas, et puis c'est un travail colossal. Donc, mais c'est vrai que ce réseau fonctionne et qu'on essaie de le développer, de susciter aussi, que ce soit Cabanel ou des gens comme ça, de susciter des vocations, de former des jeunes historiens. Donc c'est un boulot qui... Mais c'est très lent, mais c'est extraordinaire. Pareil, bon, moi, j'ai fait ce travail d'éditeur. J'espère que derrière il y aura d'autres éditeurs, il y aura d'autres créations qui se feront. C'est une vaste chaîne. On n'a jamais terminé le travail.
Et puis dans tous les armoiries mobilières du XIXe siècle, toutes les familles qui ont servi, ne serait-ce que sur la première et la deuxième guerre de religion, avaient les condés, les colis, les
beaux. Ah, ben non, mais il y a.
C'est
des
choses dont tu veux pas
en parler. Il y a très peu de choses. Il y a très peu de choses là-dessus, effectivement. Non, mais il y a encore plein de projets à mettre, plein de projets. J'espère que je serai encore capable de les mener à bien. Il ne faut pas qu'ils prennent trop de temps. S'ils prennent 30 ans de plus, ça sera difficile.
Bah, hormis les éditions de Paris, il n'y a pas vraiment de maison d'édition, d'ailleurs, qui a une bibliothèque protestante.
C'est-à-dire que...
D'histoire.
D'histoire, non.
Il y a Olivier Vétan qui diffuse un peu des ouvrages de protestants, mais de réflexion éthique, de théologie, de témoignages, mais d'histoire, il n'y a que les éditions.
C'est un peu pour ça que moi je m'étais lancé dans ce secteur, pour des raisons, moi j'expliquais tantôt, parce que l'histoire me passionne, l'identité protestante me passionne, et que donc il me semblait que, d'une part, les problèmes de théologie étaient déjà couverts, et qu'il me semblait aussi que... Pour savoir ce que l'on est, il est important de savoir d'où l'on vient et de connaître notre histoire pour connaître notre identité. Ça m'a toujours semblé fondamental. Et l'histoire, c'est pour éclairer notre présent. C'est pour savoir qui nous sommes. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, je citais Roland. C'est pour ça que j'ai écrit un livre, un roman historique sur Roland, chef Camisard, Vie et mort de Roland, chef Camisard. Parce que le livre qu'avait fait Henri Bost, que je voulais rééditer, puis je ne l'ai pas réédité, j'ai publié sa guerre des Cévennes, j'étais un peu sur ma faim, parce qu'il ne prenait comme historien que Roland dans sa partie visible. Roland, on en parle 3 ans avant sa mort. Et puis on en parle après sa mort, il devient une légende. Et moi, j'ai essayé de ressusciter un Roland dans son enfance, en étant très scrupuleux sur les recherches historiques. Et donc j'ai publié ce livre chez De Noël à l'époque, il a eu 2 éditions, puis je l'avais repris aux presses du Languedoc. Et donc ça me passionnait de donner à ce Roland de la chair, de savoir un peu qui il était, ce petit Cévenol, comment il devenait un chef historique. Voilà, donc c'est toujours que l'histoire s'enracine et prenne un peu de chair. Et c'est ce qui me passionne dans tous ces livres, c'est c'est que l'histoire n'est pas un mot, n'est pas que du papier, elle nous fait vibrer et nous, à travers ces personnages, nous entrons en résonance avec des pans de notre histoire.
Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, nouvelles ?
Je n'ai peut-être pas répondu aux questions, parce qu'il y a tellement de sujets...
quelques amis qui essaient de le faire, mais bon, ça s'avère complètement impossible, le dictionnaire des types de Saint-Barthélemy.
Ouais.
Tout ça, c'est pour Paris.
Oui, oui, oui. Ils ont
évidemment toutes les sources du martyrologue de Brespin.
Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
Mais on n'arrive pas à dépasser le cas de 95-100 personnes. Mm-hmm. Alors que, évidemment, à l'époque, on enterrait les gens en masse. Ouais. Moi, je travaillais dans le centre de Paris. J'ai cité il y a quelques temps pour une exhumation de squelettes.
Ouais, ouais.
Ils ont des squelettes de protestants assassinés à cette époque-là. Mm. Et donc, si vous voulez, on a d'abord un fou de récits extraordinaires, parce que Michel avait dit lui-même que Saint-Barthélemy a fait peut-être couler encore plus d'encre que de sang. Mm-hmm. Mais on n'arrive pas à avoir les matériaux dans l'état civil.
Oui.
À l'ordre de Mille Cotterêts était antérieure, mais elle n'était pas encore pratiquée partout.
Oui,
et
oui.
Évidemment, bon, bah, dans des phases comme celle-là, les fossoyeurs n'ont plus d'éléments. Il y en a même des mémoires.
Oui, mais c'est un peu anonyme. Les fossoyeurs ne retrouveront pas forcément des identités.
Ouais.
Oui, ça, on peut les retrouver, les gens.
Voilà. Mais les suites, les valets, etc., on ne sait pas.
Ah, ben oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
Ouais. Les faire une extrapolation multipliante, on ne sait pas. Mm-hmm. Finalement, on peut comptabiliser, ouais. C'est sur Paris. Alors que la province, on
ne
sait pas.
Oui, mais c'est sûr que là, quand vous allez rue des Saints-Pères, en redescendant vers la Seine, vous avez l'ancien cimetière où il y a Conrad, les Gobelins, le Salon de Brosse qui est là, Abraham Brode, mais il y en avait beaucoup d'autres, qui est devenu une petite cour. Donc là aussi, on a gardé la mémoire d'un certain nombre de noms connus. Bon, mais effectivement, vous avez raison, ça serait intéressant. Mais il y a
des fragments.
Ouais, d'autres pistes à inventorier.
J'ai encore une question.
Oui.
Qu'est-ce qu'on n'est pas concernant la diffusion grand public, comme par exemple dans les parcs littéraires, dans les journaux, ou les routiers hebdomadaires comme Le Point, L'Express, Figaro, est-ce que vous avez accès à ces pages?
Alors, oui, vous posez un problème de fond, c'est-à-dire qu'on a une attachée de presse à mi-temps à Paris, qui, pour chaque livre, en amont, envoie déjà, avant que le livre paraisse, avant même qu'il parte à l'imprimerie, 3 mois avant, envoie ce qu'on appelle un argumentaire qui décrit le bouquin et qui l'envoie au journaliste susceptible de s'intéresser à ce projet. Et ensuite, rappelle ces gens, voir un peu l'intérêt que ça suscite, envoie le bouquin ensuite. Mais la question numéro un qui se pose, c'est ce que je disais sur la parution, le nombre de livres paraissant chaque année, à peu près 75 000 titres, on a dit. Quelle est la place dans un hebdomadaire comme Le Point, ou L'Express, ou L'Observateur? Il y a une rubrique du compte-rendu de livres, mais qui va répertorier chaque semaine 5-6 livres. Pareil dans les quotidiens, dans les hebdomadaires, Le Figaro, Libération, Le Monde, on va avoir une quinzaine de livres recensés. Si vous multipliez par 50 semaines, ça ne fait pas beaucoup de livres. Or, évidemment, on aura déjà, la recension va toucher déjà tous les livres incontournables. Toutes les vedettes d'Ormesson sur un livre, et bien entendu, toute la presse va en parler. Poivre d'Arvor, toute la presse va en parler. Que ce soit des livres d'auteurs ou des livres de nègres, hein, parce qu'il y a beaucoup de livres qui ne sont pas faits par les auteurs. Vous savez, tous les hommes politiques font un livre, 90% sont écrits par des nègres, hein, c'est bien connu. Moi-même, je l'ai fait pour 120 personnes. Je sais. Ouais, non, je n'ai pas fait Henri IV.
C'est écrit par un nègre.
Ah oui, Henri IV de Béroul, c'est pas lui qui l'a écrit. Oui, tout à fait. Oui. Je connaissais la personne qui l'avait écrit d'ailleurs. Bien que Béroul ait dit ce que j'écris, je le dis, et ce que je dis, je l'écris. Partie du discours. Mais beaucoup d'hommes politiques ou de sportifs qui, en général, n'ont pas forcément une pratique de l'écriture très grande. Aimé Jacquet faisant son livre, tous. Donc, on va parler de ces gens-là parce qu'ils occupent le devant de la scène. Donc, on va parler de ces bouquins. Alors, si vous enlevez tous les politiques connus, tous les hommes, les sportifs connus, tous les hommes de théâtre, les chanteurs, plus les auteurs incontournables, comme je disais, Dormesson, mais ça sera Poivre d'Arvor, ça sera Solaire, ça sera... Vous avez déjà des milliers de gens qui sont présents, qu'on ne peut pas éviter. Alors la place qui va rester après, ça va être très, très mince, très difficile. Donc c'est un combat, un pari. Alors quelquefois, quand on a un papier, on dit, tiens, on a un papier. Alors bon, mais c'est un boulot de relation. Il faut trouver la personne idoine qui va s'intéresser à tel problème. Et puis, on va jouer, je prends l'exemple du Servet de Vincent Schmitt, qui est un livre remarquable. Eh bien, on va avoir, il a aussi, l'auteur peut avoir aussi des relations, des réseaux, dans la presse protestante, dans la Tribune de Genève, dans des journaux, dans la voix protestante. Et puis, dans d'autres, on a eu des papiers dans d'autres secteurs, effectivement, parce que la personne va être sensible à ce personnage. Mais c'est un boulot à recommencer à chaque fois, et qui n'est pas... Vous savez, on envoie parfois 50, 60, 80 bouquins, on n'a pas un article. Parfois, vous avez des gens qui vous demandent trois fois de suite le livre. Ils l'ont égaré, on leur a pris, enfin, ils l'ont peut-être revendu sur les quais, mais ça, c'est un problème. Mais on n'a toujours pas un article, pas une ligne. Donc, c'est une bagarre. Il ne faut pas désespérer, sinon... Alors, il y a des éditeurs qui n'envoient jamais de livre, en disant, de toute manière, ça ne sert à rien, on n'aura pas de papier, donc je ne vois rien. Mais je crois qu'en même temps, comme je disais tout à l'heure, c'est important d'avoir un papier pour maintenir le livre en librairie. C'est plus pour ça, c'est pas que ça fasse vendre, sauf si on a plusieurs pages dans un hebdomadaire, il faut parier. Vous savez, quand on voit les moyens de séduction que certains éditeurs peuvent avoir, je prends Christian Jacques sur l'Égypte, il a fait tous ses romans, vous savez, et bien la presse à un moment a été invitée en croisière sur le Nil pour qu'on leur présente le livre. Évidemment, ils vont en parler parce que c'est quand même pas inintéressant. Le coup d'après, on risque pas y être si on n'en parle pas. Donc, vous avez des moyens de séduction qu'on ne peut pas, évidemment, se payer. Mais il y a des choses comme ça. On fait une promenade, on présente le livre sur la Côte d'Azur ou ailleurs, avec voyage payé pendant 2 jours, grand repas. Bon, évidemment, il y a des séductions comme ça qui peuvent opérer. Maintenant, donc, c'est pour ça que c'est toujours très difficile d'avoir des boîtes. Alors, quant à la télé, les places sont également très rares. Quand vous rappeliez l'émission de Pivot, hein, c'est pareil, il y avait 5 écrivains invités, multipliés par 50 semaines, ça faisait 250 auteurs invités par an. Donc, là-dedans, vous enleviez 220 ou 230 auteurs incontournables, il restait une vingtaine d'auteurs... qui donnait la caution démocratique en disant, vous voyez qu'on n'invite pas que les vedettes. Mais c'était la portion congrue. C'est la règle du jeu, ça. C'est pour ça que dans la presse, en général, on parle de vedettes, et puis en temps, on parle d'un auteur inconnu. Ça montre qu'on est ouvert à la nouveauté. Pas grosse ouverture, mais petite ouverture. Donc, tous ces paramètres, ils existent, il faut en tenir compte, et il ne faut pas se décourager. Parce qu'il y a beaucoup de raisons de se décourager et de dire c'est foutu. Mais il faut être obstiné. Alors, je crois que si on n'est pas obstiné, on se décourage très vite. Vous savez, les maisons d'édition, ils se créent beaucoup de maisons d'édition parce que beaucoup de gens rêvent d'être éditeurs en disant quel métier admirable, ils ont raison, je vais publier des livres, je vais attacher mon nom à quelque chose, c'est grisant. Mais dans les 2 ans qui suivent la création, 2 maisons d'édition sur 3 en disparaissent. Donc ça ne traîne pas, 2 sur 3 dans les 2 ans qui suivent, vous voyez. Alors après, certaines résistent, je parle des petites, moyennes maisons d'édition, je ne parle pas des gros groupes, mais comme j'expliquais, les gros groupes, finalement, dépendent de puissances financières qui ne sont pas liées au livre. Je citais Matra Lagardère, je citais De Vendel à l'époque, je citais bon, des choses comme ça, qui font qu'il y a des intérêts ou des grosses banques derrière, ce n'est pas du tout la même logique. Et donc là, beaucoup d'éditeurs ont un peu d'argent. Moi, j'ai souvent déconseillé à des amis qui me disaient, à l'époque, ils me parlaient en francs, j'ai 30 briques, hein, je vais monter une maison d'édition, je vais emprunter 20 briques, 50 briques. Je disais, garde-les, achète-toi un appartement, ça sera beaucoup plus rentable. Et tu l'auras au moins, tu le garderas, alors que là, d'ici 2 ans, tu n'auras plus un sou. Et en général, ils n'écoutaient pas, naturellement, et ils perdaient tout leur argent très rapidement. Parce que... Alors nous, on a créé au départ rien du tout, mais on a crapahuté pendant 30 ans. comme des fous, tout en travaillant à côté, bien sûr, c'est-à-dire sans prendre un copec, en mettant même de l'argent de sa poche. Ouais. Mais si on compte en vivre, alors là, moi je connais des éditeurs de qualité qui se paient, quand ils se paient, au SMIG. Mais il y a des mois où ils ne se paient pas. Donc, mais en même temps, quel plaisir! Dans la douleur. Mais peut-être que c'est toujours lié à la douleur, le plaisir.
Est-ce que le segment, en fait, Terroir, segment le protestant, est-ce qu'il est, il est dédié, en fait, aux gens de ce terroir, à ces descendants, ou alors vous êtes porté...
Pas forcément. Nous, on a beaucoup développé, à l'époque des presses Vianguoc, beaucoup d'ouvrages sur les Cévennes. Les Cévennes, c'est un peu mythique, c'est un lieu magique. Bon, pour ceux qui connaissent, qui en sont originaires, c'est un mot. Le mot Cévennes est connu très loin en Europe. Beaucoup de gens ne savent pas le mot Languedoc, ils ne connaissent pas, mais le mot Cévennes, ils connaissent. C'est très curieux. Ça a une force historique très grande. Et effectivement, il y a un attachement très fort par les gens des Cévennes qui lisent beaucoup. Les Cévenols sont des lecteurs. Et ceci très, très, très anciennement, déjà au XVIIe siècle. On voyait des bouquins et des anecdotes dont parle Charles Bosse, un bouquin protestant qui était publié à La Haye, clandestinement, et qu'on retrouvait à Cassignas deux mois après. Ouais, c'est extraordinaire. Et on s'est dit, c'est ça, on arrêtait les gens, etc. Donc, les Cévennes fascinent aussi l'extérieur. Donc, les livres sur les Cévennes ont toujours intéressé, il y a toujours eu un public. Alors, il y a un peu d'inflation sur les Cévennes, il s'est créé sur des ouvrages de photos, il y en a eu des quantités industrielles. Et effectivement, parfois il y a saturation, parfois il y en a qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Et là aussi, je crois que la qualité paie, ce qui marche, c'est aussi des bouquins de qualité. Nous, ce qu'on avait essayé de faire, c'est de développer beaucoup de choses, mais en touchant au secteur cévenol, pas simplement en photo, pas paysage, mais aussi les églises romanes du Gévaudan, les châteaux, et l'histoire, etc. Donc de voir les Cévennes sous différents angles, l'image et le regard, on avait sur la photo en Cévennes, des choses comme ça. Et je crois qu'il y avait toujours eu un public attaché. À Paris, les livres sur les Cévennes ont un public aussi. Parce que c'est mythique. Les Cévennes, pour les Parisiens, c'est mythique.
Parce que je pensais un peu à...
Oui.
Je viens de Belgique.
Oui.
Et la Belgique n'a pas un passé protestant très développé. Mais par exemple, il y a beaucoup de Hollandais, ou alors d'Américains.
Les Belges, sont, bien qu'ils ne soient pas majoritairement protestants, sont très intéressés par la région. Moi, j'allais souvent, à une époque, j'allais au salon de Bruxelles, et on avait une clientèle qui revenait fidèlement chaque année, qui achetait tous les livres sur la région parce qu'ils étaient passionnés par la région. En même temps, ils venaient ici, ils disaient, les Hollandais, les Flamands sont en Ardèche, nous on va plus bas, comme ça on est tranquille. Et beaucoup de Belges ont des maisons ici et sont passionnés. Il faut dire aussi que pendant la guerre, ils ont, au moment de l'exode, ils se sont arrivés jusqu'en Languedoc et après ils étaient. Et donc le Languedoc est un peu une terre très, très fraternelle pour eux, très proche. Et moi j'étais passionné à Bruxelles de voir tous ces gens d'une année à l'autre qui venaient me dire bonjour, qu'est-ce que vous avez pu vivre l'an dernier, et des questions très pointues sur cette région. Et donc intéressé par le protestantisme aussi, je veux dire. Et les Hollandais, moins, parce que les Hollandais sont plutôt anglophones. Et donc, les livres en français, c'est moins facile d'accès. Donc, il y a le problème de la langue qui fait que même des populations d'obédience protestante, si elles ne maîtrisent pas la langue, ça pose un problème d'accès.
Dans quelle librairie à Paris, par exemple, on peut trouver votre collection protestante ? Qu'on
peut
trouver uniquement dans les librairies protestantes?
Ah non, c'est-à-dire, les librairies protestantes, il n'y en a pas beaucoup. Non. On en parlait, à Paris, on a connu l'âge d'or, si on peut parler ainsi, où on avait une librairie protestante de boulevard Saint-Germain, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont connue, qui a disparu depuis quelques années, une vingtaine d'années au moins, et qui était admirablement placée face au carrefour de l'Odéon, mais c'est trop. Donc aujourd'hui, la librairie protestante, il n'y a que celle de la rue de Clichy, hein, et puis il y a peut-être cette ici, dans la rue de Lille, je crois, voilà, rue de Lille. Sinon, on trouve les bouquins chez Gibert, on peut les trouver à la FNAC. C'est variable, il n'y a pas forcément tous les livres. les gens, les libraires vont prendre les livres qui sont susceptibles d'intéresser une clientèle. Alors, par exemple, les livres de Cotterêisson, le livre de Calvin, le Schmitt, on le trouve, le Servet, on va trouver un certain nombre de livres, mais il n'y aura pas tout. Hein, c'est très, de manière, les libraires prennent ceux qu'ils veulent prendre et le gardent le temps s'il y a des demandes. Donc, je sais que celui-ci, le Servet est en pile chez Gibert, à la FNAC. Donc, il est dans plusieurs librairies. Je ne peux pas vous dire là comme ça. Mais on le trouve en librairie. Alors, on peut le demander quand on ne le trouve pas. Le problème numéro un, c'est que 80% des libraires vont répondre, si le livre n'y est pas, vont répondre aux clients qui le demandent. Ils vont dire qu'il est épuisé. Parce qu'ils ne vont pas s'enquiquiner pour le commencer. Ils n'auront pas à le commander. Et le nombre de clients qui téléphonent aux éditions en disant « Je cherche ce livre désespérément, j'ai fait 5 librairies qui m'ont tous dit qu'il était épuisé. » Je dis non, il y a d'une part... je prends le traité des reliques, par exemple, pour faire une comparaison. On l'a... Moi, ce que je publie chaque fois que je publie un livre ancien, comme j'ai fait le théâtre sacré, c'est de le faire en graphie modernisée. Alors, le théâtre... L'histoire universelle d'Agrippa d'Aubigné, je ne sais pas si ça a été, quand ça a été réédité... C'est énorme, c'est énorme. Le problème, c'est que quand on a un très gros livre, j'avais pensé à Libenois, Histoire de la Révocation aussi, mais c'est 6 volumes. Hein. Alors là aussi, il fallait le moderniser, donc un travail colossal pour le faire. Parce que les gens, quand c'est un texte avec l'écriture du 16e, qui n'est pas très compliquée, mais la graphie du 16e perturbe les gens. Moi, on a fait un exemple auprès du Languedoc, on a publié un livre en graphie non modernisée. Il ne s'est pas vendu du tout, parce que les gens l'ouvrent et disent « Oh, ça, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, c'est illisible. » Graphie modernisée, ça veut dire quand même, non pas changer le texte du tout, mais moderniser la graphie, mettre un peu de ponctuation, quelquefois on a une absence totale de ponctuation. Donc, l'histoire universelle, c'est de se dire combien ça va coûter, quel est le public potentiel, et du fait du prix de revient, combien je vais être amené à le vendre. Parce que le prix de revient dépend de votre tirage aussi. Quand vous faites un prix de revient, il y a des frais fixes dans l'édition, la maquette, la mise en page et la maquette, que vous tiriez votre livre à 500 exemplaires ou à 100 000 exemplaires, le travail de maquette est le même. Le travail de couverture est le même. La composition, tout ça, c'est le même prix, c'est des frais fixes. Après l'impression, dans l'impression vous avez des frais fixes, et évidemment, plus le tirage augmente, plus les frais dégringolent. L'exemplaire, si vous tirez à 10 000 ou si vous tirez à 500, l'exemplaire, il y a des prix très différents. Mais tirer massivement, ça veut dire avoir un espoir de vente. Donc c'est toujours ce problème. Alors, Histoire universelle d'Agrippa d'Aubigné, qui aujourd'hui, je n'ai pas en tête le volume, mais c'est costaud, pareil que Élie Benoît, donc ça va faire des bouquins sur des sujets quand même pointus. Qui connaît aujourd'hui Agrippa d'Aubigné ? Un petit peu, les tragiques. Histoire universelle, pas grand monde savent qu'est-ce que c'est. Donc, question. Alors, c'est des livres, il faudrait à la limite, il faudrait être aidé, c'est très difficile d'être aidé. Moi, auprès du Languedoc, j'essayais de développer au maximum ceci, parce que sur la région, je connaissais du monde, donc avec les municipalités, avec le CRL pour la région, avec différentes institutions, le Crédit Agricole, etc., pour voir dans quelle mesure certaines institutions politiques ou autres peuvent aider à la naissance d'un livre. Parce qu'après tout, les institutions régionales, départementales, municipales aident aux festivals de danse, de musique, de tout ce qu'on voudra, de théâtre et autres. Il n'y a pas de raison de ne pas aider aussi le livre, surtout quand il s'agit d'un livre pointu, comme on dit, qui intéresse notre histoire, qui intéresse un certain public, mais qui, de par son importance et de par l'étroitesse du sujet, n'est pas réalisable en termes simplement de rentabilité librairie. Il y a des bouquins, on se dit, si j'en vends 200 exemplaires, c'est le bout du monde. Et il va me coûter, je ne sais pas, 50 000 euros. Donc, c'est impossible. Donc, là, il faut voir qu'est-ce qu'on peut trouver au niveau du Centre national du livre de lettres, etc. Quelles aides on peut avoir, ou de fondation. Donc c'est une course à la subvention, une course à l'aide pour que ce livre puisse voir le jour. Donc ça, c'est aussi un travail, le travail de l'éditeur, un travail dont j'ai oublié de parler, c'est de trouver des sources de financement pour aider à la naissance d'un livre. Sinon, c'est impossible. Mais c'est des sujets passionnants par eux-mêmes.
Si mon oncle, le général Pierre Dupuis-Montbrun, a travaillé les morts du médecin Guenot d'Hitler, qui est le frère de Hans Kian, son est parti au Grand de Bourg en 1785, c'est comment son père, qui a inventé le tour de la biologie mondiale, était médecin de Guillaume II. Par là, il y avait une maison pédalaise, qui était Cayes.
Mais du Dupuis-Montbrun, c'est de la région.
Voilà.
Il y a un manuscrit Camisère de Dupuis-Montbrun. Voilà.
Enfin, c'est Dupuis-Montbrun, qui aurait bien donné Dupuis-Montbrun. Et donc, si vous voulez, bon, sa femme était le médecin des Babrams, donc les fleurs. Il se met comme les exécuteurs des inventaires, il est en Allemagne, l'édition, la première qui est sortie, et tous les Allemands disaient, nous connaissons très bien notre Pascal Guenot, parce que nous savons que ce monsieur est le grand-père de celle qui a fondé Saint-Cyr, une école mondiale connue. Alors, pour donner à la petite fille qui vont presque le lire, c'est plus moins en France, mais le grand-père qui est dans les ronds du 16e siècle est pratiquement inconnu. L'image est laissée au niveau du patrimoine par son fils qui était taré et par sa petite fille qui vont abjurer. Finalement, vous coupez toute racine avec le milieu protestant. Mais les Allemands connaissent l'histoire du milieu en France et pas c'est à part le livre de M. Pierre Chabrol, le bout du désert en 1975, c'est un succès, mais encore une fois, assez limité. Ouais. Mais cette. Cette histoire universelle est quand même intéressante parce que bon, même si Rigoni est un grand esprit, il a voulu retracer l'histoire des Grecs et Romains sur le 16e siècle, les précisions qu'il donne sur la religion.
Ah non, mais c'est un homme, un homme extraordinaire, Agrippa. C'est un de très grands poètes français aussi. Les Tragiques, c'est une œuvre admirable, qui est très peu étudiée. Vous savez, je crois que là aussi, il y a une résurrection à faire au niveau de l'écriture. Calvin, on en parlait. Calvin, c'est aussi un grand écrivain de langue française. Outre le combattant, le théologien, c'est aussi un des fondateurs de la langue avec Rabelais et Montaigne. C'est un des artisans qui forge la langue française. On n'en parle jamais. Agrippa, c'est un des grands poètes. Mais quelle place ont-ils dans les histoires de la littérature française? Très faible. Donc, on connaît les tragiques. Et encore, on connaît... J'aimerais savoir qui a lu les tragiques. On connaît comme ça, oui. Trois vers. La résurrection des corps, etc. On n'en fait pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais c'est pareil, à un moment, je voulais rééditer aussi le psautier Huguenot, je le ferai peut-être un jour, dans la version de Marot de Bèze, parce que le psautier a été, après, les psaumes ont été modernisés inlassablement, et je trouve qu'ils se sont affadis d'une façon singulière, alors que la langue de Marot et de Bèze est une force extraordinaire. Et aujourd'hui, je trouve que tout ça, à force de moderniser, et devant lui déjà, l'historien dont on avait réédité le roman qui est épuisé maintenant, se plaignait de cette modernisation à outrance qui fait que la langue s'altérait, se banalisait. Donc j'avais un projet, puis ça n'a pas vu le jour, mais enfin, il y a des projets qui s'endorment quelquefois, et puis, vous savez, il y a des bouquins que j'ai édités, ils étaient un peu tombés dans l'oubli parce qu'il y avait d'autres qui étaient arrivés. Et puis 10 ans après, j'ai dit, mais pourquoi on n'a pas édité ce livre? Alors on l'édite. Ça arrive, ça. Il y a des livres qu'on publie très vite, et puis il y a d'autres qui mettent beaucoup de temps à naître. Ça, c'est comme dans une famille, il y a des enfants qui viennent, et puis d'autres qui arrivent plus tard.
Moi, je propose de nous arrêter là.
Je suis à votre disposition.
À moi qui ai une dernière question, une dernière remarque. Bon, alors pour ceux qui le souhaitent, Max a emmené le catalogue des presses de Langueloc.
Oui, ça c'est pour le montrer, parce que j'en ai plus.
Voilà, pour le montrer, ouais, voilà, ouais. Ceux qui veulent découvrir un peu les éditions, toute la panoplie de titres parus.
Mais là, il n'en reste plus beaucoup, parce que malheureusement, mon successeur a eu l'idée assez géniale de solder tout ce que j'avais mis 30 ans à éditer, et dans l'année qui a suivi, il a presque tout soldé. Voilà, donc il a fait de l'argent rapide, facile, mais je crois que l'édition, c'est la durée. Vous savez, moi, ce que j'ai toujours aimé faire dans l'édition, et c'est là que l'édition, il y a ce qu'on appelle l'édition de coût. L'édition de coût, c'est le livre que l'on sort qui correspond à un coût éditorial, c'est-à-dire qui correspond à une mode. Alors, il y a des livres qui ont une durée de vie très courte. Un livre qui va durer 3 mois, et puis il est mort. C'est-à-dire qu'on peut le pilonner parce qu'il ne se vendra plus. Il correspondait à un phénomène de mode. La mode est passée, le livre est mort. Et puis il y a des livres qui vont durer 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, Et moi, ce qui m'intéresse, c'est un livre qui dure, un livre qui a une durée de vie, qui parle après, qui ne soit pas lié à un phénomène de mode. La presse est là pour les phénomènes de mode. Mais majoritairement, aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui sont des phénomènes de mode. Beaucoup de... Alors, quand on a des éditeurs, moi je travaillais chez Belfond, qui était un homme charmant, et Belfond me disait, oui, moi je fais de la soupe, naturellement, on appelle, c'est la soupe, ce qu'on appelle les livres qui n'ont aucun intérêt, mais qui se vendent. Je fais de la soupe, mais avec la soupe, je publie des auteurs auxquels je tiens, qui ne se vendent pas du tout. Alors, il publiait de la poésie, il publiait des romans qui se vendaient à 300 exemplaires. Mais il disait, mais ça, ça ne me gêne pas, avec la soupe, je publie ça. Et puis, après, il a eu un successeur. Et alors, le successeur, il me racontait, il était resté directeur littéraire, il avait cédé son affaire. Et le successeur vient et puis lui dit, c'est pourquoi il a vendu 200 exemplaires. Il dit, mais c'est de la poésie, ça. Il dit, mais enfin, il dit, mais oui, mais l'édition, c'est avec des livres qui se vendent, qui n'ont aucun intérêt. On fait des livres qui ne se vendent pas et qui ont de l'intérêt. Il a dit non, 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 nous, ce qu'il faut faire, c'est des livres qui se vendent. Intérêt ou pas. Ce qui ne se vend pas, ça, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, il a démissionné parce qu'effectivement, les gars, les successeurs ont su créer tout ce qui était poésie, littérature, parce que ça ne se vendait pas. Donc, aujourd'hui, de plus en plus, la pierre de touche, c'est de dire qu'est-ce qui se... un bon livre, c'est un livre qui se vend. Un mauvais livre, c'est un livre qui ne se vend pas. Alors, c'est vrai qu'il y a des mauvais livres qui ne se vendent pas. Et de bons livres qui se vendent pas non plus. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le bon livre, c'est ce qui se vend de plus en plus. Et ça, c'est quand même... donc, on a tendance à pousser en avant des livres à la mode, des livres d'auteurs connus, au détriment de livres qui auront une durée de vie. Et c'est là qu'on peut avoir ce que j'appelais tout à l'heure des niches, en se disant, nous, on va vivre sur le long terme. On va faire des livres... pour lesquels on pense qu'il y a un intérêt tel qu'ils seront toujours intéressés. Je pense que le traité des reliques, eh ben, dans 10 ans, dans 20 ans, ça intéressera toujours. Le Servet de Schmitt intéressera toujours, parce que c'est pas simplement Servet, c'est Servet et les problèmes d'aujourd'hui. C'est toujours demander à un historien qui nous parle du protestantisme de dire en quoi le protestantisme, dans son histoire, peut induire des réflexions qui servent aujourd'hui à la société. Au niveau, oui, ça c'était le livre que j'avais fait, comme je disais, en tant qu'accoucheur de mon père. Ça c'est le livre de Servet, de Schmitt. Ça c'est le livre de Larguier sur les Cévennes, voilà. Ça c'est le mémoire d'Antoine Courte, merci, ça s'en dit quelqu'un. Donc c'est se dire en quoi, c'est pas de ressusciter, simplement pour ressusciter, ou de découvrir des pans d'histoire qui ont été occultés, mais c'est aussi de dire en quoi une analyse, une réflexion protestante sur le monde contemporain pourrait être éclairante. Je parlais de la laïcité, je parlais de la séparation des pouvoirs. Servet pose d'autres problèmes. Et donc, il a été brûlé pour ça d'ailleurs, mais les problèmes qu'il pose sont toujours d'actualité. Donc c'est en cela que l'édition et l'histoire ont du sens. C'est pas seulement de faire des livres pour faire des livres, c'est de faire des livres pour qu'ils aient une voix qui nous parle aujourd'hui. C'est ça qui me semble intéressant, c'est relier l'histoire, de montrer que les hommes entre le 16e et le 20e ont des préoccupations communes, et que quelquefois les questions qui sont posées, Servet, eh bien on se les pose aujourd'hui. Et comment peut-on y répondre en tant que protestant, par exemple? Et je pense que là, il y a un devoir protestant aujourd'hui, cette minorité française qui est minoritaire, bien sûr, très minoritaire, mais qui a occupé une place, d'où le dictionnaire qu'on veut faire des protestants français, qui a occupé... les protestants occupent une place importante, comme toute minorité d'ailleurs, le problème des juifs c'est pareil, dans l'intelligentsia, dans la politique, dans l'économie. Donc c'est intéressant, pourquoi de s'interroger? Moi j'ai envie de faire aussi une réflexion sur autour de protestants qui me fassent une réflexion sur Bible et littérature, Bible et musique, comment crée-t-on à partir de la Bible comment écrit-on, comment compose-t-on, comment peint-on, par exemple. Donc, tout ça, ce sont des choses qui peuvent toujours être d'actualité, de voir en quoi le terreau religieux nourrit notre quotidien. Voilà, il y a beaucoup de...
Une question très bassement commerciale. Donc il y a un an, à peu dans le lien, j'ai lancé Noble, on a vu qu'on pouvait acquérir, si vous voulez, pour 50 euros, toute la guerre des Cévennes, sauf le volume 1. Donc évidemment, nous, on s'est tous téléphonés à Paris. Ouais. On s'est précipité, dire bon, on a fait le jackpot.
Non, mais vous avez bien.
Maintenant, tout le monde fuit partout. chez Sora, etc.
Non, non, mais vous avez raison.
Et la rumeur, c'est plus vrai, vous sortiriez peut-être, pour tous ces gens-là, un volume broché.
Ah non, moi je ne peux plus rien faire, là. Ouais. Moi, je suis out, si vous voulez, puisque c'est le successeur qui a... Cette guerre des Cévennes, j'ai mis quand même 10 ans à la publier. J'ai rewrité 4000 pages. Donc ça a été un travail, j'ai commencé en 85 et j'ai fini en 96 à peu près. Donc c'est un livre qui me tenait à cœur. J'ai fait à peu près 20 000 km en voiture avec des photographes pour faire des photos partout. Et il a soldé dans les 6 mois qui ont suivi. J'ai trouvé ça un peu dur à avaler. Alors, bon, c'est bien que des amoureux des Cévennes aient pu se procurer ce livre. Alors, je sais que le tome 1 n'y était pas, mais je crois qu'il avait des projets de faire un CD-ROM, je ne sais plus quoi, ou un DVD, je ne sais plus quoi.
CD-ROM.
Alors, ça fait partie des discours qui peut-être ne sont pas suivis des faits. Mais, donc, pour moi, c'est vrai que c'était quelque chose dans laquelle, une chose dans laquelle j'avais beaucoup investi, avec des amis et tout, donc c'était un pari très, très lourd, et voilà, donc bon. Donc là, je ne pourrais pas m'occuper d'une réédition éventuelle.
Il y a un réacteur de mode sur Paris de Jean qui cherche le volume
1. Ah oui, bien sûr. Je comprends. Non, mais je comprends, parce que, comme toujours, quand on fait un livre en plusieurs volumes, le tome 1 se vend bien, le tome 2 un peu moins. Et moi, à l'époque, j'avais eu des gens qui avaient souscrit, puis qui n'ont pas... Ils étaient 3e, 4e, ils ont moins souscrit. Puis j'avais des familles, d'ailleurs, les gens avec 5 volumes, j'avais dit, m'acheter le 6e, ça vous fera une collection. Oh non, ça ne vous intéresse pas. J'ai dit, mais même financièrement, ça serait intéressant que vous ayez la collection complète. Mais il y a une différence de nature entre certaines générations de gens passionnés par l'histoire et puis des successeurs qui bradaient tout. J'ai vu d'ailleurs certaines bibliothèques de Pasteur dont les héritiers avaient tout solu. Je les ai retrouvés chez des bouquinistes. C'est des appréhensions de l'histoire qui ne sont pas toujours les mêmes. Enfin. Alors je ne sais pas si le tome 1, moi je l'ai bien sûr, j'en ai gardé quand même une série. Mais je crois que Franck il ne pas le tome 1.
Si, on en a.
Si, il a quelques tomes 1. Précipitez-vous.
Voilà, donc écoutez, pour ceux qui le souhaitent, il y a les catalogues.
Voilà,
les
catalogues des gens de Paris. Voilà.
Que vous pouvez prendre ici, sur cette table. Je vous invite, je vous remercie d'être venu et je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à vous rafraîchir après dans la librairie. Et nous te remercions, Max, de cette soirée qui nous a fait partager.
Eh bien, merci de votre présence et de votre intérêt.